Bonjour. Mon intention ici consiste à vous présenter une analyse sur l'évolution du débat sur la réforme agraire au Brésil. L'analyse de cette évolution permet de révéler une inflexion, une vision productiviste de la part du mouvement social des paysans sans terre a été graduellement remplacé par une perspective de développement durable. En ce qui concerne notre propos, nous pouvons prendre comme point de partie de cette analyse de l'évolution de la réforme agraire, du débat sur la réforme agraire, la fin de la dictature militaire. À ce moment-là, il y avait un grand espoir et un fort enthousiasme en raison de la redémocratisation du pays. La réforme agraire est au cœur des demandes sociales en vue d'une société démocratique. Dans ces circonstances, le mouvement des travailleurs sans terre est né en 1984 et le premier plan national de réforme agraire a été promulgué en 1985. Ce plan a été prévu dans la loi connue comme Statut de la Terre, Statut de la Terre, de 1964. Donc, pendant 20 ans, les années de la dictature militaire, cette loi est restée lettre morte. Les résultats de ce PNR, le Plan national de réforme agraire de 1985, a été décevant. Cependant, la réforme agraire a persisté dans l'agenda politique brésilien grâce à l'action du MST. Effectivement, la mise en place de la réforme agraire affronte des forces contraires puissantes. Le massacre de Carajás en 1996, lorsque 19 paysans sans terre ont été assassinés, constitue un exemple majeur de jusqu'où cette opposition peut aller. D'ailleurs, la date de cet événement, 17 avril, est devenue la journée internationale des luttes paysans, qui est présentée internationalement, qui est une date de mémoire de ces événements. À l'époque, en raison de la pression nationale et internationale, le gouvernement brésilien, réfractaire à la réforme agraire, a institué le ministère extraordinaire de la politique foncière, qui est devenu par la suite, en 1999, le ministère du développement agraire. Par ailleurs, au cours de ces premières années d'existence, Le mouvement des travailleurs sans terre proposait un modèle productiviste pour les zones réformées. C'est-à-dire, les MST encourageaient la création des coopératives de production agricole fondées sur la division du travail, sur une logique industrielle dépendant d'intrants, des pesticides, avec un succès mesuré par les volumes produits destinés au circuit long de commercialisation. Toutefois, en raison des échecs de ces expériences productivistes, et dans une grande mesure, en raison de l'adhésion du MST, Mouvement des Travailleurs Sans Terre, à la Via Campesina, l'agroécologie et la souveraineté alimentaire sont devenus les mots-clés de la nouvelle orientation du MST. Dans ce contexte, l'échelle locale, les circuits courts de commercialisation, les rythmes saisonniers, la connaissance agricole, alimentaire, traditionnelle, Le bien-être de travailleurs et leurs familles sont privilégiés dans cette conception. Parallèlement, le gouvernement brésilien des centres-gauche dans les années 2000 lance de nouveaux dispositifs d'appui à l'agriculture familiale. Ces dispositifs sont ancrés dans un référentiel favorable, agroalimentaire favorable à l'agroécologie et au circuit court de commercialisation. Effectivement, ces référentiels-là sont associés à celui global du développement durable.
La réflexion du MST sur la question de la durabilité a amené une modification de ses stratégies. Ce qu'on remarque, c'est par exemple, pour une partie du mouvement en tout cas, un rapprochement du monde urbain. Ça s'inscrit dans un contexte évidemment d'augmentation de l'urbanisation, pas seulement au Brésil, hein, mais un peu partout, le monde urbain grandit et vient gruger petit à petit l'espace paysan. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux mouvements plus ou moins parallèles. D'un côté, on a le MST qui, dans un premier temps, avait construit sa stratégie autour du productivisme, ce qui a créé certaines insatisfactions, notamment en termes écologiques. Et de l'autre côté, on a des citoyens urbains de plus en plus demandeurs de produits sains, de produits bio, de produits libres d'OGM, etc. Alors, c'est un peu dans cette perspective-là que le MST, ou en tout cas une partie du MST, hein, entre autres dans l'État de São Paulo, celui qu'on voit en rouge sur la diapo, a proposé l'établissement de ce qu'ils ont appelé des communes de la terre, comunas da terra, dont l'objectif est justement de s'établir à proximité des centres urbains et de produire des biens, des denrées alimentaires qui vont s'écouler sur des circuits courts auprès de la clientèle urbaine. L'exemple qui nous a intéressé surtout, c'est l'exemple de l'assentamento Milton Santos, qui est établi à peu près 120 km au nord-ouest de São Paulo, dans la municipalité d'Americana. C'est un assentamento qui est établi depuis 2005. À l'époque, on comptait 140 familles qui ont occupé un espace qui était des terres publiques, en fait, mais utilisées de façon illégale par une entreprise privée qui cultivait de la canne à sucre. La lutte a été parfois assez, disons, violente, jusqu'en 2013, où ils ont obtenu le droit légal de s'établir d'une façon permanente sur ces terres-là. Depuis, on retrouve aujourd'hui 68 familles qui travaillent là, qui ont créé une coopérative agricole qui leur permet donc d'écouler leur production sur le marché urbain d'Americana, qui est leur municipalité, et le marché de Cosmopolis, qui est situé tout près. Alors, la proximité à la ville pour l'assentamento Milton Santos, mais pour d'autres assentamentos aussi, constitue une opportunité, très certainement en termes donc de marché, mais ça constitue aussi des défis. Par exemple, dans le cas de Milton Santos, la municipalité d'Americana est en train de mettre en place son nouveau plan d'urbanisme. Et maintenant, il s'agit de voir si ce nouveau plan d'urbanisme va laisser suffisamment de place à l'assentamento pour qu'il puisse continuer dans le futur à exprimer sa spécificité et puis mettre en place ses pratiques agroécologiques.